Les enjeux internationaux, Xavier Martinet.
Vous êtes sur France Culture, bienvenue à ceux qui nous rejoignent, il est 6h46. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Dani.
Alors vous discutez ce matin avec Jacques Berthelot, économiste et professeur émérite de l'Université de Toulouse.
Oui Dani, nous sommes à l'avant-veille de l'ouverture de la 11e conférence de l'OMC à Buenos Aires et la question des subventions agricoles revient à l'ordre du jour. Vous y serez Jacques Berthelot, bonjour.
Oui, bonjour.
Vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université de Toulouse, expert sur les questions agricoles à Buenos Aires pour les ONG Pain pour le Monde, Brot für die Welt. Alors, toujours 164 pays membres pour l'OMC et deux enjeux cruciaux 22 ans après sa création, retrouver une crédibilité de plus en plus menacée et parvenir à un consensus sur les questions agricoles, un des principaux facteurs de blocage depuis les deux derniers cycles de négociations. Le but de l'OMC reste la suppression des droits de douane et les obstacles à des prix de marché, disons, la question des stocks et des subventions reste, elle, conflictuelle. Or, sur le plan alimentaire, la situation est plutôt pressante. La volatilité des prix n'a pas cessé depuis 2008 et l'engagement pris il y a 20 ans au premier sommet mondial de l'alimentation a échoué puisque le nombre de personnes souffrant de la faim réaugmente depuis 2015. Elles sont plus de 800 millions aujourd'hui. L'équation est donc compliquée. Du point de vue de l'OMC et d'une agriculture développée, c'est l'équité commerciale entre tous les pays qui comptent du point de vue national, pour certains pays en développement, en tout cas comme l'Inde, la sécurité alimentaire est stratégique. Le problème est perçu comme un déséquilibre historique nord-sud, mais une régulation agricole mondiale est-elle encore possible? Pour commencer, si on parle de cette conférence de Buenos Aires, justement, qu'est-ce qu'il peut en émerger en termes de régulation? Je le disais, il y a quand même eu de nombreuses réunions préparatoires sur ces questions agricoles cette année.
Absolument. Il y a eu depuis janvier 2016, au lendemain de la conférence ministérielle de Nairobi, il n'y a pas eu de progrès parce que, il y a deux aspects des subventions. Les subventions à l'exportation, ça a déjà été acté et on peut dire qu'il n'y a pratiquement plus de subventions à l'exportation au sens strict du terme, même s'il reste d'autres aspects de ce qu'on appelle la concurrence à l'exportation qui concerne donc les garanties de crédit, les entreprises commerciales d'État ou l'aide alimentaire excessive. Mais la question des subventions qui se pose, c'est les subventions internes. Les subventions internes ont bien entendu, profitent également bien entendu aux exportations, mais là, il y a un blocage total de la part des pays développés, Union européenne et États-Unis en tête, depuis janvier 2016, bien que cette question soit à l'ordre du jour constamment de la commission spéciale de l'agriculture qui s'occupe des négociations justement internationales, il n'y a pas eu de progrès du tout. Et l'Union européenne ne veut pas, et les États-Unis ici ne veulent pas remettre en cause l'accord sur l'agriculture tel qu'il est actuellement, c'est-à-dire que l'Union européenne en particulier considère que depuis qu'elle a découplé totalement ses aides directes, c'est-à-dire qu'elles ne sont plus liées au fait de produire un tel produit particulier, l'Union européenne ne veut pas remettre en cause cela.
Alors on va reparler du détail technique, disons, parce que c'est un point intéressant de la répartition des aides, mais si on reste juste sur ce qui s'annonce pour l'instant pour cette conférence de Buenos Aires, on a parlé déjà des subventions à la pêche, par exemple, qui pourraient bouger, même si, disait Sébastien Jean du CEPI, tout le monde a renoncé à avoir des accords d'envergure au sein de l'OMC. Ce qui compte, c'est de maintenir la crédibilité de l'organisation. C'est un peu à ça que vont servir ce genre d'accords à minima sur les questions agricoles ou plus largement agroalimentaires?
Oui, mais sur la pêche, il y aura peut-être un accord, mais sur les subventions agricoles proprement dites, subventions internes, à mon avis, il n'y aura pas d'accord, parce qu'il y a un blocage complet, notamment de l'Union européenne, qui est celle qui accorde des subventions internes les plus élevées. Rappelons qu'en 2015, c'est 38,5 milliards d'euros de subventions agricoles dites découplées, qui ont soutenu le revenu des agriculteurs. Sans ces subventions, l'agriculture européenne disparaîtrait.
Vous dites il y a un blocage complet de la part de l'Union européenne, mais il y a aussi d'autres dissensions, on pourrait dire peut-être même plus profondes ou historiques. C'est cette fameuse question du G33, un groupe, comme son nom ne l'indique pas, de 46 pays mené par l'Inde et qui essaye de faire valoir son point de vue justement sur les questions agricoles, deux choses, la détention des stocks publics pour la sécurité alimentaire et ce qu'on appelle des mécanismes de sauvegarde spéciale. À quoi est-ce que ça correspond et à quoi ça correspond dans la vision de ces pays-là, justement, ces deux points?
La question, effectivement, des stocks publics de sécurité alimentaire, c'est vraiment une question vitale pour l'Inde. parce que l'Inde, donc, a, depuis 2 ans, augmenté très fortement les produits de base, c'est-à-dire le riz et le blé qu'elle distribue à des prix très bas aux 2/3 de sa population. Et l'Inde fait 1,3 milliard d'habitants, donc c'est près d'un milliard d'habitants qui en profitent. Et ces produits sont achetés, donc, après la récolte, à des prix supérieurs aux prix que les commerçants veulent bien donner à ce moment-là. Et l'ONC, enfin notamment l'Union européenne et les États-Unis, considèrent que ce prix supérieur au prix du marché est un prix anormal et que donc la différence entre ce prix auquel elle achète les produits, dit prix administré, et non pas le prix actuel du marché intérieur ou même du marché mondial, mais avec le prix des années 86-88 au moment où démarraient les négociations de Rügen. C'est une règle totalement absurde compte tenu notamment de l'inflation moyenne de l'ordre de 10% par an qui s'est produit en Inde.
Et donc le G33 et l'Inde essayent de faire évoluer cette règle, ils ont des chances d'y arriver ?
Non, ils n'ont pas de chance d'y arriver parce que il y a un blocage complet et surtout parce qu'ils n'ont pas compris qu'il faudrait aussi que ces règles s'appliquent aux États-Unis. Les États-Unis sont le plus grand pourvoyeur d'aide alimentaire intérieure, hein, qui est de l'ordre de 115 milliards de dollars. Mais les États-Unis ont interprété les règles comme ne s'appliquant qu'aux pays en développement. Alors que, disons que c'est une lecture qui est tout à fait contestable.
Et jusqu'ici, je le disais, il y a quand même eu une certaine mobilisation, même si pas complètement abouti, lors des 2 derniers sommets de l'OMC 2015 et 2013, c'est ça. Mais il y a également eu une mobilisation du côté du G20, ce fameux G20 agricole de 2011, qui proposait un certain nombre d'outils de régulation, notamment un conseil de sécurité agricole, et puis des mesures, 5 mesures variées également. Ça veut dire qu'on n'a pas réussi jusqu'ici à faire une régulation mondiale, en fait, de la volatilité des prix, du contrôle de la production.
Non. Disons que les pays du G20, parmi lesquels notamment les grands pays exportateurs de céréales et oléagineux, hein, d'Amérique latine, mais aussi les États-Unis, l'Union européenne pour les céréales, etc., tirent un grand avantage en fait de la hausse des prix, puisque plus les prix des céréales et des oléagineux augmentent, donc plus à la fois les profits de ceux qui les vendent et les balances commerciales des pays s'améliorent. Ce que veut bien le G20, il veut bien que on puisse réguler la volatilité des prix à court terme, hein, par les marchés dérivés par exemple. Mais en fait, les marchés dérivés ne font qu'amplifier, disons, les tendances du marché. Mais il n'est pas question pour eux de vouloir empêcher la hausse, parce que pour les pays pauvres qui importent, ce qui est important, c'est de stabiliser les prix, qui n'augmentent pas de trop. Alors je sais bien que l'indice général des prix alimentaires, disons, produit par la FAO, montre que après la flambée qui a culminé en 2011, les prix se sont maintenus à un niveau très élevé jusqu'en 2014. En 2015 et 2016, ils ont réellement chuté, mais en 2017, à nouveau, ils réaugmentent. Bon, ces marchés agricoles sont soumis donc à une fluctuation très difficile, mais on ne peut pas vraiment la réguler. On ne pourrait la réguler que si justement les propositions de Jacques Diouf de la FAO, là, bon,
l'ancien secrétaire général, oui.
Oui, qui rejoignent en fait les propositions aussi de ce qui a été décidé au sommet du G20 en 2011. Bon, ce que propose Jacques Diouf est totalement réaliste. C'est ce qu'a toujours proposé la FAO, c'est-à-dire que la FAO ne veut pas proposer une hausse, comme toutes les institutions internationales, une hausse des prix agricoles qui ne peut se faire dans les pays pauvres que par une protection efficace à l'importation. Donc, comme elle ne veut pas envisager que les agriculteurs puissent autofinancer en fait leur production s'ils avaient des prix stables et rémunérateurs, ce que propose Jacques Diouf, comme proposait le G20 en 2011, c'est simplement donc de solliciter des aides massives, à la fois publiques et des investissements privés, dans les pays à déficit alimentaire, comme par exemple l'Afrique subsaharienne. Mais ça n'est pas réaliste. Les agriculteurs, je le dis, donc sont capables d'autofinancer leur propre production, pas évidemment de financer les infrastructures en amont et en aval.
Et donc ça, c'est pour les pays du Sud, bien sûr, pour lesquels il y a cet objectif quand même de sécurité alimentaire. Jacques Diouf l'avait rappelé en appelant d'ailleurs, avec Barack Obama à l'époque, à une troisième révolution verte. C'est pas possible de réduire tout de suite ce déséquilibre, on pourrait dire historique Nord-Sud sur le plan de la production, en fait, ce sur quoi vous insistez depuis le début de l'entretien, c'est la question des subventions dans les pays développés. Ce serait elles qu'il faudrait d'abord limiter, en fait.
Oui, absolument. Il faut interdire le dumping. c'est-à-dire le fait d'exporter à un prix inférieur au coût de production moyen du pays, ou en l'occurrence ici de l'Union européenne par exemple. Mais ça, disons donc, l'Union européenne affiche quelque chose qui est tout à fait incompréhensible. Elle dit donc le fait que je donne des subventions à mes agriculteurs, comme elles ne sont pas liées au fait qu'ils produisent tel ou tel produit, qu'elles sont découplées, comme on dit, donc n'a pas d'effet de dumping. Mais ça, c'est complètement, enfin, c'est incompréhensible, parce que toute subvention, qu'elle soit d'ailleurs couplée ou découplée, à partir du moment où ça a permis donc de baisser fortement les prix intérieurs, compensés donc par ces subventions, depuis les réformes de la PAC de 92 et 99, eh bien, c'est que l'impact sur, que ces exportations se font à des prix très inférieurs au coût de production s'il n'y avait pas les subventions. Donc, c'est du dumping. Ce dumping a été défini très précisément par l'organe de règlement des différends dans l'affaire des produits laitiers du Canada en 2001. Il dit donc qu'il y a dumping quand on exporte à un prix inférieur au coût de production moyen du pays sans subvention.
Eh bien, c'est dit à bon entendeur, en quelque sorte. On verra ce qui se décide lors de cette 11e conférence de l'OMC. En tout cas, merci Jacques Berthelot. Vous allez à Buenos Aires, vous êtes économiste, professeur émérite à l'Université de Toulouse et expert sur les questions agricoles pour l'ONG, Pain pour le Monde et Our World is Not for Sale. Je rappelle juste votre article dans la revue internationale et stratégique paru ce mois-ci. Selon que vous serez puissant ou misérable, la question agricole dans le commerce mondial. Merci.
Merci beaucoup Xavier Martinet. Bon week-end à vous. Vous pouvez podcaster les enjeux internationaux sur les sites franceculture.fr.